Bonjour à toutes et à tous. La problématique de la fin du DDRR prévue pour le mois de décembre 2019, c'est le sujet de l'émission politique Patara de cette semaine. Bientôt la fin du processus du désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement DDRR des groupes armés. En tout cas, on le souhaite et c'est ce qu'a annoncé le ministre délégué au DDR, colonel Noël Bienvenu Célesson. Conçu comme unique moyen de pacifier le pays en proie à plus de 15 groupes armés, le DDRR, avec son budget bouclé, entre timidement dans sa phase opérationnelle dans la partie ouest. Sur 12 000 éléments éligibles, tous groupes confondus, seulement moins de 500 hommes sont à ce jour désarmés. À 5 mois de deadline de fin du processus, le centre, le nord-est et le sud et une partie de l'ouest ne sont pas désarmés. Sur présomption de bonne volonté des groupes armés, les responsables de l'UPC, FPRC, MPC indiquent la levée de barrières et attendent du gouvernement le cantonnement. L'accord du 10 mai 2015 qui avait jeté la base du DDRR, consolidé par l'accord de Khartoum, ce dernier reste foulé aux pieds par les groupes armés selon le secrétaire général de l'ONU, en dépit de la mise en œuvre par le gouvernement. Devant cette situation, le gouvernement reste optimiste des avancées enregistrées, alors que la réalité sur le terrain montre un autre cliché. L'UPC de Ali Darassa continue de recruter alors que le pays est dans la phase du désarmement. Les 3R qui contrôlent une bonne partie du nord-ouest n'ont pas donné l'essentiel de leur arsenal justifiant suivre d'abord l'attitude des autres forces négatives. Devant tout doute raisonnable, le gouvernement est convaincu de tenir l'agenda du DDRR. Le mouvement Cœur Uni, MCU, parti qui soutient les actions du gouvernement, est sur la même trajectoire politique. L'opposition politique démocratique, elle ne croit ni à la volonté des groupes armés à se désarmer, encore moins à l'accord de Khartoum qui énonce le principe du DDRR. Question, le chronogramme annoncé du gouvernement est-il tenable? Les groupes armés ne concluent-ils pas un marché de dupes au gouvernement? La liste des éligibles et les appels de pied des groupes armés suffisent pour boucler le DDRR. Qu'en est-il de Abdoulaye Miskine aujourd'hui dans le maquis où quelques-uns de ces éléments sont désarmés? En prenant les armes, ce dernier dit agir au nom de tous les groupes armés. N'est-ce pas là une solidarité de force non conventionnelle dans les volte-face? Pour en débattre, nous recevons Evariste Ngamana, directeur de cabinet au secrétariat général du gouvernement et rapporteur général, porte-parole du MCU. Monsieur, bonjour.
Bonjour Armando et bonjour à tous nos auditeurs.
André Nalke-Dorogo, vice-président de l'UCA, parti chef de file de l'opposition. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Paul Cressant-Bilinga, porte-parole du groupe de travail de la société civile. Bonjour aussi à vous. Et Larry Nordil Mahalba, premier vice-président du comité consultatif et du suivi du DDRR à la présidence de la République. Monsieur, bonjour.
Bonjour Armando et bonjour à nos auditeurs.
Au cœur de l'émission, je suis Armando Nguenzi. Je bénéficie de l'appui direct de Jean-Fernand Kouina et de Herman Nambona à la technique. Patara, c'est tout de suite.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
C'est Patara qui démarre comme ça. Première question à vous, Monsieur Mahalba. Est-ce que les groupes armés sont vraiment dans la même logique que le gouvernement aujourd'hui pour se faire désarmer?
Merci, Monsieur Armando. Le gouvernement a le droit de fixer un chronogramme puisque c'est depuis qu'on a commencé. On a pris du temps dans la planification et aujourd'hui, la conception est aujourd'hui avec d'abord un essai, le DDR pilote, et pour tester. Et aujourd'hui, le gros DDR est lancé par le chef de l'État à Pawa. Et il nous faut absolument fixer un cap pour nous permettre d'aller plus vite parce que le peuple centrafricain est fatigué. Et nous y croyons fermement parce que le DDR est dans sa phase irréversible. Et nous pensons que ça va tenir.
Mais en tant que vice-président des groupes armés qui acceptent volontairement pour se faire désarmer, est-ce que vous pensez que cela est tenable d'ici décembre?
Il faut aussi noter que le DDR est un processus. Et un processus, il faudrait que nous fixions un cap. Et pour sur ce cap, d'ailleurs on a commencé déjà à l'ouest, nous sommes en train de boucler. Depuis l'Ouest, les équipes mobiles sont sur le terrain avec 10 jours de travail, mais prolongation encore. Donc ça veut dire que la sensibilisation se fait telle que la sensibilisation se fait. Les éléments amènent les armes, on les cantonne. Vous voyez déjà à l'Ouest, avec prolongement, on a fait déjà 15 jours. Il faut encore revenir, aller au centre. Au centre, nous allons prendre combien de temps? Mais nous y croyons que dans le temps, il faut accélérer les choses parce qu'on a beaucoup pris du temps dans la conception et il faut accélérer les choses.
Vous avez parlé du gros DDR à Paoua, seulement 300 éléments sont désarmés. Qu'est-ce qui explique cela?
Le DDR, il faudrait que le concept soit bien spécifié. Le DDR à seul ne résout pas tout le problème. C'est pourquoi nous avons le CVR, réduction des violences communautaires. Pour ceux qui sont éligibles, parce que l'accord sur le principe de DDRR prévoit que les éligibles, c'est-à-dire ceux qui déposent une arme de guerre en état de fonctionnement ou non, ou d'autres explosifs et autres, et ceux qui ne rempliront pas les conditions, c'est-à-dire qui ne feront pas partie des groupes armés, ceux-là seront reversés dans un autre programme appelé CVR. Et non seulement ça, il y a aussi le désarmement des civils par la Commission nationale de lutte contre les armes à petit calibre. Tout ça là, c'est tout ce processus-là qui va englober le désarmement total de la RCA pour une stabilité. Donc, le DDR à seul vise les éligibles seulement. Si on a 300 et quelques à pouvoir, ça veut dire que ce sont les éligibles qu'on a pris. Et ainsi de suite, les inéligibles seront basculés au programme CVR. Et ensuite, pour la population, ALPC va s'en occuper. C'est comme ça que nous fonctionnons.
On y revient avec vous, monsieur Ngamana. Je rappelle que vous êtes le rapporteur général, le porte-parole du MCU, parti du président de la République, Faustin Kantouadéré. Est-ce que le gouvernement est réaliste quand il dit boucler le DDR en décembre?
Merci Armando. D'abord, je voudrais, avec ta permission, replacer ce débat dans son contexte de départ. Vous savez qu'au retour à l'ordre constitutionnel, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a fait de la sécurité sa priorité. Et pour y parvenir, il fallait se doter de certains moyens. Notamment, il a misé sur deux moyens qui sont le dialogue et le processus DDRR. Nous avons ici, dans le cadre du processus DDR, qui est un processus d'ailleurs, comme il venait de le dire, nous avons un comité consultatif qui a été mis en place où siégeaient les représentants des 14 groupes armés. Et le processus DDR a deux phases. La première phase, comme il a si bien expliqué tout à l'heure, c'est la phase préparatoire. Vous savez, la phase préparatoire a pris beaucoup de temps parce que pour mieux faire, il faut vraiment s'organiser. Et une fois que cette phase préparatoire est bouclée, nous rentrons maintenant dans la phase qui est la phase opérationnelle. Et c'est dans ce sens qu'il y a un deadline qui a été indiqué. Je crois que cette date est à titre indicatif. Il ne faut pas qu'on en fasse une fixation. Mais l'objectif pour le gouvernement ou bien pour l'ensemble de la population, comme il vient de le dire, qui est fatiguée de toutes ces atrocités, c'est d'arriver à faire désarmer ces groupes armés et à ramener la paix au pays. Donc nous, de notre côté, nous restons optimistes parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'aller vers la paix.
Voilà, si vous, au niveau de pouvoir, vous êtes optimiste, Monsieur Dorogo, l'opposition démocratique reste toujours pessimiste quant à la concrétisation de ce programme.
Mais je vous remercie à entendre les deux intervenants qui me précèdent. Ce processus devient serpent de mer. Pourquoi serpent de mer? Bien sûr qu'on a décliné le processus en plusieurs phases. La phase pilote qui devrait prendre moins de temps, même si on doit y mettre suffisamment d'influx pour que cela se fasse normalement. Cette phase dite pilote a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, on parle de la phase opérationnelle. Mais dans cette phase opérationnelle, vous venez de le confirmer, sur les 12 000 hommes attendus pour être désarmés, il y a moins de 500. C'est-à-dire moins de 5% de l'objectif. Moins de 5%. Et M. Ngamana vient de préciser que la date butoir, c'est décembre. Il faudrait voir, in fine, l'organisation des élections générales prévues pour décembre 2020. Si aujourd'hui, le désarmement a du plomb dans l'aile ou a un retard à l'allumage, comment pouvoir espérer donner la sécurité au peuple centrafricain pour que, enfin, on puisse penser à tout ce qui peut survenir après.
Vous voulez parler des élections?
On est allé à Khartoum pour créer les meilleures conditions de cela. Et les dispositions de l'accord de Khartoum-Bangui, je les couple, sont précises. Il est dit, pour ce qui concerne l'engagement des groupes armés, je le lis, c'est l'article 5, petit b. J'en passe, et surtout, c'est le D, procéder d'un commun accord entre les parties et partenaires à la dissolution intégrale des groupes armés sur toute l'étendue du territoire. C'est pas moi qui le dis, c'est l'accord, c'est le terme de l'accord. Aujourd'hui, on en est loin. On parle de désarmement. Mais qu'est-ce qu'on voit? On a plus désarmé pour recueillir des mousquetons, des armes blanches. Est-ce cela? Où sont les armes lourdes qui font tant de mal au peuple centrafricain? Où sont-elles? Et comme vous voyez, comme nous, beaucoup se mettent dans la communication. Chacun sort son communiqué de presse pour dire qu'il a enlevé une barrière, rétrocédé un bâtiment, alors qu'on sait que sur le terrain, il n'y a rien de tout cela. Alors, marché de dupes, oui, mais j'attends de mon jeune frère le soin de me dire si marché de dupes il y a et qui doit être dupé. En tout cas, pas le peuple centrafricain.
D'accord, on va revenir sur cette question. Paul Cresson-Beninga, quelle lecture faites-vous du processus DDRR et surtout ceux qui sont de la société civile?
Dire que le DDRR prendra fin d'ici le mois de décembre 2019 ressemble à un slogan de campagne électorale. Pourquoi je le dis? Parce que techniquement, on ne peut pas arriver à des résultats escomptés. Pour deux raisons. La première, elle est technique. Et la seconde, c'est au regard des faits et gestes des groupes armés qu'on observe sur le terrain. Du point de vue technique, comme on l'a si bien souligné ici, le DDR est un processus. Il y a bien évidemment la phase préparatoire, il y a la phase opérationnelle. Même dans la phase opérationnelle, si on veut atteindre des résultats escomptés, au moment où on parle, on débat autour de cette table, on devrait déjà arriver ne serait-ce qu'au cantonnement de tous les groupes armés, ce qui n'est pas le cas. Les groupes armés ne sont pas cantonnés. Dans les faits, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les groupes armés aujourd'hui continuent de recruter, vous l'avez si bien dit. L'UPC continue de recruter, mais il n'y a pas que l'UPC. Il y a un dissident du FPRC, Issa Banda, qui continue de recruter. On est en train de mettre en place un projet qui consiste à repeupler la RCA, mais par des étrangers mercenaires. Aujourd'hui, vers la Waka, la Vakaga, on n'arrive plus à contrôler le flux migratoire. On se rend compte que, excusez-moi le terme, mais il y a les peuples armés qui nous viennent depuis le Nigeria, le Soudan, le Tchad, qui peuplent ces régions-là, qui s'installent dans ces régions-là. Et on nous dit qu'il est possible d'arriver à des résultats escomptés d'ici le mois de décembre 2009. Non, c'est un leurre. On est en train.
Mais ces peuples-là ne sont pas aussi cantonnés, ils ne sont pas aussi enregistrés pour.
Bien évidemment. Mais ces peuples-là viennent pour le compte d'un certain nombre de groupes armés qui sont très bien connus. L'UPC, une branche du FPRC, le MPC, ce sont ces groupes armés qui causent beaucoup de problèmes. Et quand on nous parle ici d'un projet pilote, lorsqu'on nous parle ici de ce que 500 hommes ont été désarmés, démobilisés, je veux bien croire, mais de quel groupe s'agit-il? Il s'agit du RJ, il s'agit du FDPC, il s'agit d'une petite partie des éléments de Sidi qui est 3R.
Et les anti-balaka aussi. Hein.
Oui, les anti-balaka, naturellement. Qu'est-ce qu'on a fait du FPRC? Qu'est-ce qu'on a fait des éléments de l'UPC? Qu'est-ce qu'on a fait des éléments du MPC? Alors que Ali Darassa, Sidiki et bien d'autres continuent de tuer, de piller, de violer. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Qu'on donne ne serait-ce que l'impression qu'on aime ce pays. Et quand on aime ce pays, on doit avoir un certain type de comportement. On ne peut pas dire aujourd'hui, même si ce n'est qu'un souhait, ce souhait n'est pas réalisable. Et le DDR, tel qu'il a été conçu, ne peut pas nous permettre d'aboutir à des résultats escomptés. Ça, c'est une vérité. Et l'honorable Nario Doko l'a dit ici, autour de cette table. Lorsque on voit les armes qui ont été collectées des mains de ces groupes armés, de qui se moque-t-on? Lorsque ces groupes armés exercent, passez-moi l'expression, exaction, crime contre l'humanité, est-ce que c'est avec ces armes qu'on a collectées? La puissance de feu dont ils font l'apologie, très souvent, ce ne sont pas avec ces armes-là. On ramasse 3-4 Kalachnikov, on dit on fait le désarmement.
Mais c'est un désarmement volontaire, hein, il faut le reconnaître.
Mais jusqu'où? Jusqu'à quand? Nous allons continuer à tenir ce discours du désarmement volontaire jusqu'à quand? À un moment donné, qu'on soit sérieux. Si on veut effectivement rester dans l'esprit de cet accord qui a été paraphé à Khartoum et signé à Bangui, aujourd'hui, on ne parlerait plus des groupes armés. On ne parlerait plus des groupes armés. La dissolution, elle est immédiate. C'est ce qui a été écrit noir sur blanc. Lorsque FPRC, l'UPC ou encore le MPC décident de pendre des communiqués ou des déclarations, que sais-je, pour dire qu'on a levé les barrières. Mais c'est faux. On n'attend pas de la levée des barrières. Et ils ont qualifié ce que j'ai aimé, je finis par là, ce que j'ai aimé, Armando, dans cette déclaration, c'est de dire que c'est des barrières illégales. Donc, depuis ces groupes armés savent que ces barrières sont illégales, mais ils contrôlent ces barrières parce que ces barrières leur permettent de lever des impôts, des taxes. Et à partir de ce moment, il faut dire la vérité aux Centrafricains. Ce DDR ne peut pas nous amener à créer des conditions d'une paix durable.
D'accord, monsieur Mahalba, vous avez écouté le doute de Paul Christian Benenga, porte-parole du groupe de travail de la société civile. Est-ce qu'aujourd'hui, techniquement, on peut parler de ce processus qui va vers une fin que personne ne saura vraiment déterminer?
Merci, Armando, à attendre l'honorable et puis mon frère Benenga ici. Il est important de lever certaines équivoques. D'ailleurs, il ne faudrait pas que nous perdions de vue, tel qu'a dit mon frère, question des barrières illégales, que nous revenons de loin. Nous revenons de loin et aujourd'hui nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que la stabilité puisse revenir dans le pays. Le DDR tel que conçu, il ne faudrait pas que nous mélangeons les choses. Le DDR a un objectif central qui vise à la stabilisation, la sécurité et le relèvement du pays à travers un processus inclusif qui commence déjà par le désarmement des ex-combattants, je dis bien des ex-combattants, membres des groupes armés signataires de l'accord de 10 mai. Et le programme DDR est prévu dans l'accord de 10 mai. Alors, l'accord de Khartoum n'est que quelque chose qui peut renforcer l'accord de 10 mai, renforce l'accord de 10 mai pour nous permettre d'aboutir à la paix. Alors, l'accord de 10 mai est très, très, très clair. Ici. D'ailleurs, l'effort global de stabilisation de la paix va même au-delà du DDR traditionnel. C'est-à-dire, ça touche les communautés, qui permet déjà de prendre en compte les inéligibles. Si vous voyez, un groupe dit aujourd'hui que j'ai 20 000 hommes, oui, il a 20 000 hommes, et les armes qu'ils détiennent font du mal au peuple centrafricain. Mais l'accord de 10 mai dit qu'il faut être membre d'un groupe armé signateur. Ou soit, c'est lui qui signe un avenant à cet accord. Il faut disposer d'une arme de guerre, je dis bien une arme de guerre, pas les armes traditionnelles et autres, fonctionnelles ou non. Alors, ces critères, il y a des armes traditionnelles qui font du mal, telles que les, nos frères des Antilles, Balaka et autres. Alors, ceux-là sont des inéligibles.
Ils sont en majorité.
Ils sont en majorité. Ceux-là sont des inéligibles. Mais le DDR, l'effort global de stabilisation de la paix, va au-delà. Ça va les toucher. Ça les prend en compte dans le programme réduction de violence communautaire. Tout ça là, c'est des programmes qui se font. Aujourd'hui, les éligibles, je dis bien les éligibles dans le critère, c'est ce qui se font sur le terrain maintenant. Alors, si on dit on prend des armes blanches, tout ça, moi je dirais non, parce que moi je suis aussi vice-président du comité consultatif qui sont chargés du DDR, on a été sur le terrain, toutes les armes qui sont prises respectent le critère d'éligibilité. Si tu n'es pas éligible, toi tu passes au CVR.
Alors donc, les armes blanches aussi?
Les armes blanches, non. Les armes blanches, non. Mais et si. Ce que vous voyez peut-être, je ne sais pas, parce que notre pays est un pays de rumeurs, est un pays de tout ça. On dit, on jette de discrédit sur le travail qui se font ou les efforts qui se font.
Alors, c'est pas de rumeurs.
Je finis. Le DDR aussi n'a pas prévu, dans l'accord de 10 mai, il n'est pas prévu la question de cantonnement. Parce qu'il y a des partenaires qui nous soutiennent, qui nous appuient, qui ont bien recadré les choses, qui nous donnent les moyens. Et nous aussi, nous nous fixons à cela et nous cherchons. Le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre aussi pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui ne sont pas pris en compte dans l'accord de 10 mai et dans le programme. C'est ce qui a été prévu aussi dans l'accord de Khartoum. Et le gouvernement est en train de tout faire. Le comité consultatif, le bureau est en train de mettre des stratégies en place pour boucler tout ça pour que la paix puisse revenir dans le pays.
Monsieur Ngamana, aujourd'hui, vous avez écouté le porte-parole du groupe de travail de la société civile, monsieur André Narkedologo de l'opposition, qui doute très fort de cette mise en œuvre de ce processus du DDRR.
C'est pas seulement un doute. À les écouter, ils sont dans une sorte de pessimisme total. Parce que, comme il venait de dire mon frère, n'oublions pas que le pays, on revient de très loin. Et le processus DDRR a été amorcé bien avant l'accord de Khartoum. Aujourd'hui, il est beau de critiquer, il est beau de dire tout ce qu'on peut dire. Mais comme il a techniquement expliqué ici, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame entre les gens qui sont éligibles et ceux qui ne sont pas éligibles. Le processus DDRR est clair. Il s'agit bien de ceux qui sont éligibles, c'est-à-dire ceux qui détiennent les armes, ceux qui détiennent des armes de guerre et ceux qui répondent aux critères fixés dans le cadre de ce processus-là. Et nous pouvons critiquer, mais qu'est-ce que nous proposons comme alternative? En dehors du DDRR, en dehors du dialogue qui, aujourd'hui, a permis à ce que nous commençons à amorcer un début de stabilisation du pays, de la sécurité, etc. Qu'est-ce que l'opposition ou bien mon frère qui est en face de moi est en train de critiquer là? Qu'est-ce qu'il propose comme alternative?
Mais en attendant, vous le savez très bien que le DDR et le dialogue prôné par le gouvernement n'ont pas fait vraiment désarmer la moitié de ces groupes armés.
Ce n'est pas dans l'immédiat, c'est un processus. Il ne faut pas que nous nous fassions d'illusions à ce niveau. Nous avons été à Khartoum signer un accord entre les groupes armés et le gouvernement
Il s'agit maintenant de mettre en application les dispositions de cet accord-là, notamment la mise en place de comités exécutifs de suivi, la mise en place des UMSS, c'est-à-dire les unités mixtes de sécurité dans les zones définies par cet accord-là, et aussi maintenant rentrer dans le cadre du processus DDR qui permettra le désarmement effectif volontaire de tous ces groupes armés. N'oublions pas une chose, en dehors de ce que le gouvernement est en train de faire comme effort de paix, mais n'oublions pas que cet accord a été parrainé par la communauté internationale, notamment l'Union africaine, l'Union européenne, la CEAC, toute la sous-région, tous les chefs d'État qui ont soutenu cet accord suivent de très près. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé à Zoukombo. Vous voyez que en même temps où nous avançons dans le cadre du dialogue, dans le cadre de la paix, dans le cadre de la stabilisation du pays, si certains groupes armés venaient à s'entêter, il y a une réponse immédiate et cela s'est fait au niveau de FDPC qui a voulu tergiverser parce que après la signature de l'accord de Khartoum, nous avons pris presque un mois en train de tergiverser. Et tous les groupes armés qui s'aventureront sur ce chemin, je crois qu'ils auront non seulement le gouvernement en face d'eux, mais toute la communauté internationale qui va donner des réponses appropriées. Parce qu'il y a des dispositions aussi, dans le cadre des violations de cet accord, notamment l'article 35, je crois, si je ne me trompe pas, qui prévoit aussi des sanctions en ce qui concerne les groupes qui continuent de s'entêter ou continuent de recruter.
Monsieur André Narkodologo, l'opposition ne croit pas à l'avenir avec ce programme de DDR face à ce doute. La volonté politique du pouvoir de Bangui, je refuse de déclarer la guerre. Ça, c'est la déclaration du président de la République. Quelle alternative aujourd'hui selon l'opposition?
Je vous remercie, mais je voudrais quand même que l'on comprenne que si on est allé à l'accord du 10 mai, l'entente du 10 mai...
2015
Oui, 2015, bien sûr. Et si on se réfère à l'accord de paix de Khartoum, in fine, on recherchait quoi?
La paix.
La fin des hostilités, la paix pour le peuple centrafricain. Et l'accord de paix a décliné un chronogramme avec des délais d'exécution précis. N'est-ce pas, Évariste, mon frère?
On ne se contredit pas, c'est ce que j'ai dit.
Bien. À l'examen de la mise en œuvre de ce chronogramme, que dites-vous? Que dit le gouvernement? Que dit-il? Que disent les groupes armés? Que disent les facilitateurs et les garants? Parce que le peuple centrafricain, malheureusement, se dit que cet accord est en train de démontrer qu'il a été signé sur son dos, pour parler de manière familière. Vous parlez de sanctions, mais que dire des exactions à Satema? Que dire des exactions à Bong, à Kundjili et autres? Que dire de Zangba? Y a-t-il eu sanction? En face, nous attendions du gouvernement qu'il prenne ses responsabilités. Au lieu de cela, ça a été...
Mais il y a eu pression.
Comme il l'a dit, comme il a eu, on a mué en des tergiversations. Et le fameux ultimatum était en fait un pétard suffisamment mouillé. D'ailleurs, ce pétard n'a pas explosé. Où sont les vrais responsables, les 42 qui ont conduit l'expédition punitive dans ces zones? Où sont-ils? Où sont-ils? Je prends au mot le gouvernement. Puisque M. Ngamana représente le MCU qui soutient le gouvernement, je voudrais qu'il me réponde très précisément et qu'il réponde au peuple centrafricain. Qu'en est-il des suites à donner à tous ces événements?
Mais avant que je ne vous réponde, je voudrais aussi que vous répondiez à ma question de tout à l'heure.
Ouais,
qu'est-ce que vous proposez comme alternative à la place du processus DDR et de l'accord qui a été signé? Il ne s'agit pas seulement de critiquer.
Je vais vous le dire.
Oui. Vous avez encore la parole, monsieur.
Je tiens absolument, puisque l'accord de 10 mai 2015 a été paraphé par tous, je tiens à sa mise en œuvre intégrale. Et c'est de la responsabilité des partis signataires, pas du peuple centrafricain, qui attend de vous des résultats. Première des choses. Deuxièmement, pour ce qui concerne l'accord politique, je tiens que la mise en œuvre soit intégrale. Et cela, on en est loin. Il faudrait qu'on arrête de mener en bateau le peuple centrafricain parce qu'il a trop souffert et que cela doit arrêter et arrêter tout de suite.
Je suis là pour m'ériger
en procureur parce que ils doivent cela et les groupes armés et le gouvernement nous doivent des explications.
Oui, monsieur Ngamana.
Merci Armando.
Je
suis très enchanté d'écouter l'honorable Nalké qui maintenant fait allusion et au gouvernement et au groupe armé. Vous savez que après l'accord de Khartoum, tout ce qui concerne les efforts du côté du gouvernement ont été faits. Et même, j'en vais pour preuve,
salué par l'ONU,
le Conseil de sécurité qui était en mission ici, a vu que le gouvernement de son côté a tenu ses engagements. Maintenant, en face, si les groupes armés ne tiennent pas leur engagement, il nous appartient, non seulement et le gouvernement, même l'opposition que vous représentez ici, il nous appartient tous de nous lever comme un seul homme pour dénoncer cela, parce que vous dénoncez seulement les manquements du côté du gouvernement. Qu'est-ce que vous dites exactement de ces groupes armés qui ne tiennent pas leur engagement? Voilà, c'est ça.
Mais avant de revenir sur les principales questions de ce débat, monsieur Paul Cressant-Beniga, comment pouvez-vous douter de la volonté des groupes armés qui font un pas déjà en envoyant leur liste pour le désarmement?
Écoutez, j'ai pris des exemples qui sont clairs ici. Je vais répondre à votre question, mais permettez-moi 30 secondes pour répondre
rapidement,
au propos de monsieur Ngamana tout à l'heure. Monsieur Ngamana a évoqué le cas des sanctions infligées au FDPC d'Abdoulaye Miskine. Il a également rappelé ici autour de cette table la question d'un début de stabilisation. Je me suis posé la question, monsieur Ngamana, si nous vivons dans un même pays. J'ai comme impression, non, que nous ne vivons pas dans un même pays, non pas dans un même espace géographique. Et je m'explique très
rapidement.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Très rapidement. Lorsque vous parlez d'un début de stabilisation, qu'est-ce qu'on a observé après l'accord de Khartoum? Il y a eu des tueries. L'exemple le plus récent, c'est ce qu'on a observé avant-hier, au kilomètre 5. On est à moins de 5 kilomètres du palais.
Ça, l'histoire de kilomètre 5 n'a rien à voir
Monsieur
avec
Ngamana, vous allez souffrir de m'écouter.
Non, je vous corrige tout de suite. Permettez, Armando.
Ça participe de l'instabilité sécuritaire.
Mais ça n'a rien à voir avec les accords de Khartoum.
Peu importe, participe de l'instabilité sécuritaire.
C'est un groupe de bandits qui se sont levés pour faire du désordre. Et il y a eu des réponses en face. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'accord de Khartoum.
Attendant, oui, M. Ngamana, continuez.
Je vous en prie.
Ayez la courtoisie de me laisser terminer.
J'ai juste rectifié ce que vous venez de dire.
Non, vous n'avez pas rectifié. Vous n'avez pas la police du débat.
Nous ne permettons pas le débat. N'est pas.
Monsieur Ngamana, si vous voulez que nous n'ayons pas ce débat, je suis capable d'organiser le désordre comme vous. Ayez la courtoisie de me laisser aller au bout du développement de mes propos. Alors, ayez la courtoisie de ne plus m'interrompre. Si vous m'interrompez, je vais vous interrompre.
Non, s'il vous plaît. Monsieur Paul Kessler, vous avez la parole.
Alors, ayez la courtoisie de ne plus m'interrompre.
C'est moi qui
alors,
le débat.
Je parle du kilomètre 5. Ce qui s'est passé au kilomètre est inadmissible. Lorsque vous parlez d'un début
mais
de stabilité...
Mais qui n'a rien à voir avec l'accord de Khartoum.
Non, continuez s'il vous plaît, monsieur Ngamana.
Je parle du kilomètre 5. Vous
finissez rapidement, oui.
Ce qui s'est passé au kilomètre 5 est inadmissible. On ne peut pas continuer à entretenir un foyer d'insécurité dans une capitale politique à moins de 5 km d'un palais. Et vous ne pouvez pas dire qu'il y a un début de stabilité du point de vue sécuritaire. Qu'est-ce qui s'est passé à Satéma? L'honorable vous l'a rappelé ici. Qu'est-ce qui s'est passé à Bouan? On vous l'a rappelé. Qu'est-ce qui s'est passé à Koundili après l'accord de Khartoum? Est-ce que ce ne sont pas des faits qui participent de l'instabilité dont on parle? Alors ne venez pas dire ici que il y a un début de stabilité. Lorsque vous parlez des sanctions, monsieur Ngamana, je veux bien vous croire, mais voyons et soyons un peu sérieux. Qu'est-ce que vous avez fait de Sidiki? Lorsqu'il a tué, il a massacré. C'est des crimes contre l'humanité ce que Sidiki a posé. Vous l'avez caressé dans le sens du poil. Aussi bien le mouvement Cœur Uni qui n'a pas véritablement condamné ces crimes odieux et le gouvernement qui n'a pas pris des mesures qu'il faut pour pouvoir servir de leçon aux autres groupes armés. Aujourd'hui, on nous dit que nous connaissons un début de stabilité, les sanctions sont mises en œuvre. C'est archi faux. Et vous dites ici, vous nous interpellez, qu'est-ce que nous proposons? Vous nous interpellez ici en disant, qu'est-ce que nous reprochons? Pourquoi est-ce que nous ne condamnons pas les groupes armés? Je mets quiconque à défi autour de cette table. Le GTSC, dont je suis le porte-parole, n'a cessé de condamner les exactions des groupes armés. Et vous, du gouvernement, vous êtes ceux-là qui nous empêchent bien évidemment de faire notre travail quand nous condamnons. Parce qu'il y a une sorte de complicité entre votre mouvement, les Cœurs Unis, le gouvernement et les groupes armés. Parce que au sorti de cet accord de Khartoum, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé les dignitaires des mouvements Cœurs Unis aller dans les provinces rencontrer les chefs rebelles, même ceux qui sont sous sanction des Nations Unies. Vous postez avec eux, vous pactisez avec eux et vous venez aujourd'hui nous faire la leçon. Je réponds maintenant à votre question, monsieur.
Il
y a une question qui m'a été posée, si vous permettez. C'est pas vous qui faites la police de débat, monsieur.
Je vous donne 1 minute. Vous finissez.
Oui, c'est pas vous qui faites la police de débat, monsieur Ngamana. C'est pas vous qui faites la police de débat. Il y a une question qui m'a été posée. La question est celle de savoir pourquoi est-ce que les groupes armés ont envoyé des listes et nous sommes sceptiques. Nous sommes sceptiques parce que les faits et les gestes des groupes armés nous amènent à penser que les groupes armés ne sont pas sérieux. Je l'ai dit ici et vous l'avez écrit noir sur blanc et vous l'avez dit. L'UPC continue de récolter et je vous ai dit, il n'y a pas que l'UPC. Il y a le MPC, il y a le FPRC. Ils s'abandonnent aujourd'hui, recrutent et tout le monde le sait. Je vous dit il y a un projet dans ce pays et je vous rappelle ce que Babalade à l'époque disait, il travaille pour le grand peuple,
peuls dans ce pays, le retour du grand peuple dans ce pays. Aujourd'hui, il y a des millions de peuls qui s'installent au vu et au su de tout le monde dans ce
vous
pays.
Vous parlez des peuls armés.
Des peuls armés. Ben, et qui ne sont pas des peuls centrafricains.
D'accord. Maintenant, monsieur Ngamana, au sortir des discussions de Khartoum, nous avons assisté à un nouveau vocable, les groupes armés partenaires de la paix, avec l'attitude des groupes armés aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer le déséquilibre dans le partenariat aujourd'hui entre le gouvernement et ceux-là?
Non, je crois que d'abord, avec votre permission, je voudrais d'abord que il ne faut pas qu'on en arrive à personnifier le débat. C'est ce que je voudrais rappeler à M. Beninga. Deuxièmement, je vous propose de donner la parole de manière équitable, parce que je me rends compte autour de cette table qu'il y en a qui prennent la parole et qui veulent la conserver à longueur de temps.
Donc vous avez maintenant 3 minutes.
Ceci étant, cette question mérite d'être posée au groupe armé. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, au sortir de l'accord de Khartoum, du côté du gouvernement, tous les efforts qui ont été faits, que ce soit dans toutes les revendications qui ont été retenues dans le cadre de cet accord, notamment la nomination des éléments de ces groupes armés au gouvernement et dans certaines institutions, la mise en place du comité exécutif de suivi, la mise en place de l'unité mixte de sécurité, etc. Le gouvernement a eu à jouer sa partition. Maintenant, s'il y a un déséquilibre, c'est du côté du groupe armé, comme l'a si bien signifié le Conseil de sécurité. Maintenant, nous devons poser la question à ceux-là qui nous disent clairement pourquoi, après la signature de cet accord, ils continuent de tuer, ils continuent de violer, de massacrer, ils continuent de recruter. Il n'appartient pas au gouvernement de répondre à cette question-là.
Oui, mais en attendant, on peut revenir sur les principales questions de ce débat. Est-ce que le chronogramme annoncé par le gouvernement est-il tenable pour le DDRR?
D'abord, je l'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure, que c'est un chronogramme à titre indicatif. Et vous l'avez si bien dans votre propos liminaire ici, indiqué de qui cela vient cette date-là. C'est de M. Selesson qui est le ministre en charge du DDRR. Maintenant, si nous nous rendons compte que nous sommes en train d'aller vers un glissement, c'est tout à fait normal parce que je l'ai dit que après la signature de l'accord de Khartoum, après la mise en place du premier gouvernement, après l'accord de Khartoum, nous avons tergiversé parce que du côté des groupes armés, il y en a qui ont estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment représentés au gouvernement et il a fallu encore convoquer un sommet au niveau d'Addis Abeba pour régler toute cette question-là. Et du coup, ça a joué aussi sur le reste du processus. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas en faire une fixation, mais ce qui est essentiel, c'est ce processus qui est déjà en marche et nous nous rendons compte bien qu'il y a certains groupes armés qui ont la bonne volonté de pouvoir désarmer, notamment le FDPC qui a montré cette bonne volonté, les 3R, et le groupe anti-Balaka. Nous attendons des autres qu'ils puissent emboîter le pas. Parce que nous ne pouvons pas continuer à faire souffrir le peuple éternellement.
Et justement, hein, les groupes armés qui font un peu de pas sont ceux qui sont à majorité centrafricaine, comme d'aucuns le disent. Mais qu'est-ce qui explique vraiment ce doute de l'autre côté?
Justement, c'est une très bonne question parce que vous savez que parmi ces groupes armés, il y a beaucoup de mercenaires étrangers. C'est pourquoi c'est un processus DDRR. Le dernier R, c'est le rapatriement de tous ces étrangers mercenaires. Et ce sont ceux-là qui essaient d'influencer ces groupes armés parce qu'ils estiment pour leur part qu'une fois des armées rapatriées, ils seront en difficulté dans leur pays. Et ce sont ceux-là qui continuent de tuer, de faire du mal au peuple centrafricain. Nous devons le dénoncer pour que tout le peuple qui nous écoute en ce moment puisse le savoir. Il appartient aux principaux responsables de ces groupes armés de prendre leurs responsabilités. Parce que ils sont signataires de cet accord, ils doivent le mettre en application, comme l'a dit l'honorable Navke tout à l'heure, le peuple centrafricain attend de voir de leur côté cette bonne volonté pour que nous allons enfin vers une paix durable.
Monsieur Mahalba, vous êtes le vice-président du comité consultatif du DDRR et puis c'est au niveau de la présidence, n'est-ce pas? C'est juste ça. Les groupes armés ne concluent-ils pas un marché de dupes au gouvernement actuel?
Je pense que question de marché de dupes, c'est pas trop sûr parce que les groupes armés ont démontré leur bonne volonté en envoyant la liste des éléments éligibles.
Mais pas FPRC.
Le FPRC a envoyé la liste. Mais il y a un problème technique, c'est-à-dire qu'il manquait de précision. Il y a 12 sur 14, les deux n'ont pas précisé. Parce que l'accord de 10 mai a été clair. Il faut donner l'identité de l'ex-combattant, y compris le matériel dont il dispose. Alors, ces groupes-là ont commis l'erreur de ne pas préciser le matériel que X en a, pour permettre à l'équipe mobile de s'organiser pour aller sur le terrain en fonction de la logistique dont elle dispose. C'est comme ça qu'on a dit, ils n'ont pas envoyé la liste. Sinon, FPRC a envoyé la liste, mais il n'a pas mis la précision. C'est comme ça qu'un retour, soit retour leur a été envoyé pour qu'ils puissent préciser, repréciser tel combattant à tel armement, tel combattant à tel matériel pour permettre à l'équipe mobile d'aller de manière précise désarmer ces combattants-là.
Mais dans le travail de suivi que vous faites, est-ce que vraiment vous avez compris que le FPRC, Ali Darassa et ses éléments sont prêt à se désarmer, parce que c'est le doute de chacun de nous ici.
Pour l'instant, il est trop tôt de dire oui ou non, parce que nous sommes à l'ouest. Aussitôt à l'ouest, nous allons partir au centre. Les équipes mobiles vont se déporter au centre, et au fur et à mesure que nous avançons, là où il y a les imperfections, nous notons, nous faisons le rapport et nous envoyons à qui de droit. C'est-à-dire ceux qui veulent désarmer, ceux qui ne veulent pas, ou ceux qui ne remplissent pas les critères, tout ça là, nous faisons le rapport. Alors, UPC et autres sont au centre, FPRC et autres sont vers nord-est et ainsi de suite. Pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés là-bas, mais les listes nous sont déjà parvenues et nous attendons le déploiement de l'équipe mobile selon le chronogramme sur le terrain pour essayer de voir est-ce que qui fait quoi. Donc cette question, il est trop tôt de dire oui ou non parce que nous ne sommes pas allés sur le terrain dans ces zones-là pour faire un rapport pour dire clairement au plus puissant.
Vous travaillez en commun accord avec le groupe armé sur le terrain. Comment expliquez-vous l'attitude d'Abdoulaye Miskine? Alors, est-ce qu'il n'est pas dans le même jeu des groupes armées?
Je pense pour ma part, quand le chef de l'État a pris le pouvoir, il a tendu la main à tous les groupes armés. Et il a reçu les groupes armés de manière individuelle. Alors, un groupe armé ou un leader ne peut pas rassembler tous les autres leaders pour en faire son seul groupe. Les groupes armés sont indépendants. En commençant par l'accord de 10 mai, vous avez vu les signatures. Chaque groupe armé a son leader et ses combattants identifiés. Abdoulaye Miskine a son groupe et ses combattants. Donc, le jeu qu'un groupe armé fait ou un leader fait, c'est en son nom propre et au nom de son groupe. Aujourd'hui, si une partie, telle que vous avez dit dans votre propos liminaire tout à l'heure ici, si les éléments de FDPC, une partie de ces éléments ont volontairement déposé les armes, il convient de rappeler que le DDR est volontaire. Alors moi, leader aujourd'hui, je ne peux pas prendre en otage un élément qui a souffert et qui veut peut-être rentrer dans la République, dire que non, arrêtez, suivez-moi après parce que je dois devenir ministre, je dois devenir ceci et puis rester derrière moi. Les éléments ont la conscience, c'est une question de conscience patriotique.
Sauf qu'après l'accord de Khartoum, vous avez compris que les groupes armés n'ont pas la bonne volonté de se faire désarmer ni de respecter leurs engagements.
Loin de ce que vous dites, parce que après l'accord de Khartoum, aussitôt, il y avait eu une latence et les groupes armés se sont restés là pour observer le gouvernement. Le gouvernement avait pris du temps, un peu un mois en allant pour réagir. Et en réagissant, c'était pas bien clarifié. Il y avait eu des agitations et les gens ont douté, ont renoncé au programme que le gouvernement avait fait. Il y avait eu un appel. Les partenaires ont appelé au niveau d'Addis. Addis, là-bas, il y avait eu une conclusion. Et une fois au retour, vous avez vu à peu près que les choses se normalisent. C'est difficile. Mais au fur et à mesure que la sensibilisation se fait, au fur et à mesure que les gens, la CAC est à pied d'œuvre sur le terrain pour faire la restitution, vous voyez que les choses s'améliorent au fur et à mesure.
Monsieur Drogo, s'il y a lieu, s'il y a glissement, est-ce que cela peut affecter les élections de 2020?
Mais bien évidemment, il n'y a pas l'ombre de doute. Vous voyez bien que le calendrier, ce chronogramme, ce fameux chronogramme, n'est pas tenable. Et tout concourt à ce que cela ne soit pas tenable. Je me demande à quel dessein. Revenons au cœur du problème qui est sécuritaire. Je ne peux pas admettre de faux fuyants. Les responsabilités doivent être tenues. On doit aller à la sécurisation de la population. Cela est valable pour le gouvernement comme pour la communauté internationale, singulièrement pour la MINUSCA dont c'est l'élément majeur du mandat. Pourquoi louvoyer alors que les objectifs sont clairs? Ces objectifs appellent des actions tout aussi concrètes. Pourquoi ne va-t-on pas vers ce désarmement? On a parlé ici de deux phases. La première semble-t-il pilote. Pour quel résultat? Le résultat est somme toute minable. On en arrive à l'option opérationnelle. Les chiffres viennent de vous. Moins de 500 sur 12 000 hommes. Si on doit arithmétiquement programmer ce désarmement, à quel horizon serons-nous? Nous dépasserons pas seulement décembre 2019, mais malheureusement décembre 2020, sinon 2021. Où allons-nous? Il y a des conséquences à assumer. Et là, ce n'est qu'au niveau du DDR, parlant du fameux glissement. J'aime pas ce mot et j'aime pas encore celui d'une glissade, parce que de glissement, nous risquons d'arriver à une glissade. Avec des grands écarts, et le peuple centrafricain en a marre, et des glissements, et des glissades, et des grands écarts. Je voudrais ici et maintenant qu'on nous dise qu'est-ce qu'on peut faire puisque les moyens sont là. Je parle des moyens
logistiques
et techniques, financiers donnés pour l'opérationnalisation du DDRR. Pourquoi louvoyer? Pourquoi chercher les faux fuyants? Pourquoi ne pas engager l'action? Je veux l'action.
Vous voulez parler de quelle action?
Mais l'action, c'est de réunir les conditions pour que l'on désarme. L'action, c'est pour que les groupes armés, conformément aux dispositions de l'accord de paix, puissent être dissous. Pour que le cantonnement puisse se faire. Pour que le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et le retour puissent être enclenchés. Et ça, ça peut se faire s'il y a une volonté réellement politique. Je ne la vois pas. Alors que M. Ngamana me dise où sont les éléments constitutifs de cette volonté politique.
Voilà, volonté politique, vous pouvez évoquer, hein, parce que déjà, le secrétaire général de l'ONU en a mentionné, les évêques, lors de leur conférence épiscopale à Bossangoa en a mentionné. Y a-t-il d'autres éléments?
Bon, je crois que les principaux éléments sont là. Nous ne pouvons pas les omnubiler. Et nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître quand même les efforts qui ont été faits par le gouvernement. Au sortir de l'accord de Khartoum, effectivement, comme vous l'avez si bien dit ici, je l'ai même souligné à plusieurs reprises, la communauté internationale a salué les efforts faits par le gouvernement et même la conférence épiscopale centrafricaine. Du côté du gouvernement, les éléments, c'est quoi? C'est d'abord, la première volonté, c'est la mise en application des dispositions de cet accord. Notamment, je les ai citées ici quelques-unes, la nomination des éléments du groupe armé dans le gouvernement, même si cela n'a pas été accepté par tout le monde, la mise en place des structures pouvant conduire l'opérationnalisation du processus DDRR et la mise en place aussi de l'unité mixte de sécurité. Donc, du côté du gouvernement, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Maintenant, il appartient à ceux qui sont en face de pouvoir nous le dire. Mais puisque nous parlons du processus DDR, il ne faut pas qu'on puisse oublier un autre aspect ou bien un autre volet sur lequel le gouvernement y travaille, notamment la restructuration de l'armée nationale. Au jour d'aujourd'hui, plusieurs bataillons ont été formés. Des efforts dans le cadre de la levée de l'embargo sont faits. Dernièrement, le porte-parole du gouvernement en a fait la démonstration parfaite, comme quoi toutes les conditions qui ont été sollicitées par la communauté internationale en vue de solliciter la levée totale de cet embargo d'ici le mois de septembre ont été faites du côté du gouvernement. Donc, l'armée, parallèlement au processus DDRR qui est en marche, que je ne voudrais pas trop épiloguer sur le chronogramme, parce que ça, c'est techniquement, c'est mon frère Larry qui peut nous le dire, ou bien Célestin s'il était là, mais je crois que du côté du gouvernement, il y a une volonté réelle d'aller vers la paix et d'aller vite. Si ça ne tenait qu'au gouvernement, on serait déjà avancé à grands pas. Mais nous constatons malheureusement que du côté du groupe armé, il y en a qui continuent de tergiverser. C'est pourquoi je dis ici que cet accord a été parrainé à un haut niveau. Que les groupes armés qui continuent de s'obstiner sachent qu'ils n'auront pas que le gouvernement en face d'eux. Il y aura la communauté internationale qui a salué cet accord, qui continue de le soutenir, de l'appuyer.
Mais donc, vous êtes pessimiste ou optimiste pour vraiment la réussite
de ce programme d'ici décembre? Je suis optimiste quant à la réalisation du processus DDRR qui va enfin soulager le peuple centrafricain qui a tant souffert.
Monsieur Paul Cressant Beninga, les groupes armés n'aiment pas la justice. Se désarmer revient à s'exposer à la justice. Pensez-vous que ces groupes armés vont cesser avec les armes leur première ressource économique?
Écoutez, il est clair. Je vous ai dit, et je ne me répéterai jamais sur cette question, le comportement des groupes armés prouve à suffisance qu'ils ne vont jamais se laisser désarmer. Tout simplement parce que la rébellion constitue un moyen pour eux de racketter, de s'établir en gouverneur dans les régions dont ils se sont installés. Lorsque vous évoquez la question de la justice, cette question a été balayée d'un revers de main, déjà dans l'accord politique paraphé à Carto et signé à Bangui, et je m'explique. On a mis en place le comité Vérité, Justice et Réconciliation dans la dynamique d'une justice transitionnelle. Et quand on dit justice transitionnelle, il y a deux volets. Il y a le volet sévère, mais il y a également le volet d'ordre juridique. Mais qu'est-ce qu'on observe? À côté, on met en place des comités ou des commissions mixtes, je ne maîtrise plus la dénomination exacte, et c'est cette commission ou ce comité-là qui a mandat de déterminer comment est-ce que l'organisation qui est censée traiter des questions d'ordre judiciaire fonctionne à partir de ce moment. Et le gouvernement, ou du moins, soyons clairs, et le président de la République et les groupes armés se sont entendus pour laisser de côté de la justice. Mais il faut rassurer le peuple centrafricain. Les crimes qui sont commis par les groupes armés, qu'ils ne veuillent ou non, qu'ils se laissent désarmer volontairement ou non, ces crimes sont imprescriptibles, relèvent de la compétence des juridictions internationales. Et à partir de ce moment, 10 ans après, 5 ans après, 15 ans après, ces groupes armés-là vont être traduits devant la justice. Il faut qu'ils le sachent, qu'ils signent des accords, qu'ils les protègent aujourd'hui, qu'ils signent des ententes avec le chef de l'État, qu'ils les protègent aujourd'hui. Demain, ils seront traduits devant la justice. Ça, c'est une question de temps. Et à partir de ce moment, ils doivent comprendre que même s'ils jouent sur le temps, ça ne sert pas à grand-chose.
Sauf que le président de la République parle toujours de la justice. C'est pour trouver la paix, mais la justice va faire son travail.
Je veux bien croire, mais regardons ce qui se passe sur le plan judiciaire.
analysons froidement la chose. Qui sont ceux qui sont interpellés devant la justice? Que ce soit au niveau de la cour criminelle, que ce soit au niveau de la cour pénale spéciale, que ce soit au niveau de la cour pénale internationale. Qui sont ceux qui sont interpellés? C'est davantage ceux qui sont considérés à un moment donné dans ce pays comme des héros. C'est davantage ceux qui sont considérés dans ce pays à un moment donné comme les plus faibles, dans le jargon, passez-moi l'expression, des groupes armés. Mais ceux qu'on qualifie vulgairement de gros poissons, j'en viens, je n'ai pas peur de mots, l'expression n'a pas de vigueur, je vous dirai. Ceux qui sont qualifiés de gros poissons, où sont-ils? Je veux nommer là les Ali Darassa, les Sidiki. Je vous dis une chose, même si on peut fermer les yeux sur les crimes qui ont été commis par l'UPC, les 3R, MPC et bien d'autres, ne serait-ce que ce que Sidiki a commis comme crime après la signature de cet accord, il serait déjà devant les tribunaux. Ça allait servir d'exemple. Aujourd'hui, on a un Gaïsona. Oui, quand c'est moi, vous me rappelez, alors il n'y a pas de souci. Monsieur Ngaman a monopolisé la parole, je ne l'ai même pas interpellé.
Je vous en prie, suis parti.
Il y a un Gaïsona qui est aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Il y a Rambo, Hécatom. Il y a Andilo qui est en prison. Après, où est Ali Darassa? Où est Al-Khatim? Et je finis, hein, comme j'ai une mine d'ongle, il me reste 30 secondes. Je finis sur les propos de Larry Nordin et les propos qui ont été qualifiés par M. Nganama de technique. Non, ça n'a rien de technique. Ça me paraît plutôt un discours politique. Et il y a trop de contradictions là-dedans. Je prends un exemple simple. Vous évoquez l'accord de 10 mai 2015, M. Nordin. Je veux bien. Mais si on fait le bilan à mi-parcours, pourquoi vous attendez qu'on parle du DDR véritablement en 2019? Si les groupes armés sont de bonne foi, depuis 2015, les groupes armés allaient déjà abandonner la lutte armée. Le désarmement allait être effectif.
Mais comme ils ne sont pas de bonne foi, quelle est la solution que vous attendez que
Mais la solution, elle est simple. Lorsque vous dialoguez et que ça ne marche pas, il faut aller.
Il faut passer à la vitesse supérieure.
Il faut utiliser la force. Il faut que les gens le sachent. En relation internationale, l'État, dans une perspective réaliste, est l'acteur principal. Et il dispose de deux moyens. La diplomatie et l'armée. Ça veut dire que le diplomate et le soldat. Lorsque vous essayez avec la diplomatie ou avec le diplomate, ça ne marche pas. Il faut avoir recours aux soldats. J'ai pas compris cette politique. Pendant 5 ans, on nous fait croire que non, ça ne peut pas marcher. On va continuer à tendre la main. Mais jusqu'à quand? Et quelle main allons-nous continuer à tendre? Du moment où on tend la main, on la coupe. À un moment donné, vous n'aurez que des épaules à tendre.
Voilà, aujourd'hui, hein, vous avez vu la position de la société civile. Le chef de l'État a bien déclaré qu'il refuse de faire la guerre. Le chemin de la paix, c'est de tendre la main à ces groupes armées. Mais aujourd'hui, les choses tardent à être concrétisées. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres alternatives pour se faire désarmer, surtout désarmer ces groupes armés?
Merci. D'abord, très rapidement, je voudrais revenir sur une question qui a été soulevée tout à l'heure en ce qui concerne la question judiciaire. D'ailleurs, dans la feuille de route définie par l'Union africaine, avant même l'accord de Khartoum, il y a des principes directeurs qui étaient clairs. Nous allons au dialogue dans le strict respect de la Constitution et on ne va pas prôner l'impunité. L'impunité était zéro. Et le chef de l'État, chaque fois dans ses discours, est revenu sur la question. Et je voudrais juste dire à mon frère et au peuple qui nous écoute que la question judiciaire ne relève pas du pouvoir exécutif. C'est un principe élémentaire du droit. Au nom du principe de séparation de pouvoir, la justice est en train de faire son travail. Vous savez que je le dis souvent ici que la justice est comme une vieille dame, hein, qui va lentement mais sûrement. Viendra le moment où tous ces responsables principaux de ces groupes armés vont être arrêtés, traduits devant la justice, qu'on le veuille ou non, puisqu'il s'agit des crimes imprescriptibles. Maintenant, pour revenir à votre
question. Rapidement, vous avez une minute.
Vous voudrez que je vous réponde sur quelle question que je
La question permettez. Est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on peut passer à la vitesse supérieure pour forcer les groupes armés à se faire désarmer?
C'est possible, mais avec quels moyens? J'ai dit tout à l'heure que, parallèlement au processus DDRR qui est en cours, il y a un effort de restructuration de l'armée qui est là. Nous devons aller en force, mais il faut disposer des moyens. L'armée aujourd'hui, c'est clair, il faut que nous ne nous voilons pas la face, l'armée ne dispose pas de moyens. Il y a quelle armée dans ce pays-là? Nous sommes sous embargo. Nous sommes en train de nous battre pour que cet embargo soit levé, pour que enfin l'armée puisse disposer des moyens pour son action et pour sa mobilité. Et c'est ça la vérité. Il ne faut pas qu'on vienne ici mentir aux gens pour dire qu'on peut aller de force faire des
armes
par
la force. On évolue, monsieur Larimal.
Je vais vous faire remarquer que vous avez donné la parole à tout le monde.
Non, je vais vous donner la parole.
J'en prendrai acte.
Non, je vous donnerai la parole. C'est parce
je vous
que
le fais savoir.
Je vous en prie. Voilà. C'est moi qui donne la parole. Je reviens vers vous tout à l'heure. Oui, monsieur Mahalba, est-ce que le chronogramme du DDR prendra fin, comme cela est dit?
D'ailleurs, pour répondre à votre question, je voudrais faire.
Répondez juste à ma question, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas
moi,
le temps.
Moi, je dis, il est beau, bon de faire des discours, mais soyons raisonnables, soyons mathématiques. Parce que quand nous nous adressons à une audience de nature publique, il ne faudrait pas que nous faisons distraire le peuple qu'aujourd'hui, on doit aller tirer sur celui-là, on doit aller faire ça. La guerre n'a jamais résolu un problème
dans
un pays.
Sur les gens.
Alors, moi je dis aujourd'hui, si on parle de la diplomatie, on parle de l'armée, on dit, enfin c'est comme si on vit en dehors de la République centrafricaine. Nous sommes dans ce pays. Mon frère Ngamana l'a si bien souligné ici, c'est question de moyens. Et c'est un État qui est en train de s'organiser et la diplomatie est en train d'être mise en marche. Il n'y a pas un seul moyen de résoudre un problème que le dialogue. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et nous voyons, si vous parlez de 2015, déjà on aurait dû dissoudre les groupes armés ou désarmer. Par quel moyen? L'accord a été signé, il fallait négocier avec les partenaires. D'abord, on était pendant la période de la transition, le régime démocratiquement il a été mis en place, des négociations, des démarches ont été entreprises et les partenaires ont accepté de soutenir le DDR. Les moyens sont mis en place, les phases préparatoires ont été faites, la phase pilote a été faite et maintenant nous amorçons, c'est un processus. Et allez vite, vite même, serez-vous à la place de ceux qui sont en charge du travail? Vous n'allez pas le faire.
Vous n'avez pas donné des leçons là-dessus.
La question, je ne donne pas de leçons. Je donne mon opinion. Alors, question de glissement, je dis, c'est un travail technique, c'est un processus, pourvu qu'on en arrive, et nous sommes en train de nous efforcer pour que la date soit tenue.
Voilà, monsieur Derogo, vous avez écouté la réponse. Pour terminer, aujourd'hui, avec la position des groupes armés sur le terrain, est-ce que c'est un marché de dupes au gouvernement, rapidement?
Mais bien évidemment.
C'est la dernière question.
Bien évidemment, non seulement c'est un marché de dupes, et comme je l'ai dit, le dupe là-dedans n'est pas le peuple centrafricain. Je vous le dis très clairement. Arrêtons les manœuvres dilatoires. Que ça soit du côté du gouvernement que des groupes armés. Nous savons que l'alliance est ainsi faite. Le débat l'a prouvé. Aujourd'hui, je voudrais seulement rappeler ou appeler l'attention du peuple centrafricain qu'il ne sera pas dupe dans cette affaire. Que le désarmement se fera. Et je le dis en face de M. Nordine. Il se fera. Il ne se fera pas selon votre seule volonté. Il le fera selon la volonté du peuple centrafricain, qui est le peuple souverain. Je vous le fais savoir.
Et dans ce cas...
Deuxièmement, le gouvernement devra, à travers le gouvernement, le président de la République, se souvenir de son serment. Je ne voudrais pas rappeler les termes de ce serment, tout le monde les connaît. On devra donner au peuple centrafricain protection. On devra garantir l'intégrité du territoire centrafricain. On devra permettre la liberté d'aller et de venir. On devra remettre au seul gouvernement le monopole de la violence. Et je le demande, je le dis aux représentants du MCI, rapporteur d'ailleurs, pour que le gouvernement sache quelles sont ses responsabilités. Et au travers de la population, les partis politiques, et notamment ceux de l'opposition, exigeront que le désarmement puisse être fait. Cela devra se faire, sinon des responsabilités devront être assumées. Parce qu'il y a des conséquences à ce glissement que j'appelle déjà glissade.
Oui, mais en dépit de cela, quelle perspective et quelle proposition pour l'opposition rapidement?
La proposition, c'est d'arrêter les manœuvres dilatoires, de recentrer toutes les énergies dans la mise en œuvre du processus de désarmement. Je voudrais des preuves. Je voudrais que tous les mois, on puisse nous dire on a désarmé combien, on a cantonné combien, on a réinséré combien. Et cela, je n'ai pas eu de réponse précise. Il a parlé de techniques de mathématiques. C'est quel type de technique de mathématiques? J'aurais bien voulu comme le décline en termes de moyens, d'actions et de résultats. Où sont-ils ces moyens? Où sont ces actions? Où sont ces résultats? Nulle part.
Voilà, M. Ngamana.
Alors, arrêtons les manœuvres dilatoires.
Oui, M. Ngamana, pour terminer, est-ce que certainement le programme DDR-R prévu pour 2019, je voulais parler du décembre, vous êtes sûr que cela va se tenir?
Je crois que j'ai déjà répondu à cette question.
Mais cela n'empêche pas.
Je le souhaite vivement parce que le peuple a trop souffert. Et je voudrais tout simplement dire que, comme a dit Larry tout à l'heure, c'est maintenant que le processus DDRR est rentré dans sa phase opérationnelle. Et il a dit que ça se passe selon les zones. Aujourd'hui, ils sont dans l'ouest. J'espère qu'ils vont très rapidement finir dans l'ouest pour entamer le nord-est, etc. Et que enfin, d'ici décembre, que les groupes armés puissent désarmer effectivement. Voilà, c'est le souhait le plus absolu.
Monsieur Gabena, a-t-on désarmé les Siriri à Gamboula, à Amada Gazaïa Berberati? Je vous pose la question.
Je vous en prie, c'est la fin de ce débat politique Patara sur Radio Ndekeluka. Merci à tous de l'avoir écouté. Le sujet, je le rappelle, portait sur la problématique de la fin du DDRR prévue pour le mois de décembre 2019. Nous avions invité dans cette émission Evariste Ngamana, directeur de cabinet au secrétaire général du gouvernement et porte-parole du MCU, M. monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci, Armando.
André Nalke Dologo, vice-président de l'ULCA, parti chef de file de l'opposition, merci aussi à vous.
Merci.
Paul Cresson Bininga, porte-parole du groupe de travail de la société civile, merci d'être venu.
Merci.
Et Larry Nordil Mahalba, premier vice-président du comité consultatif et du suivi du DDRR, merci.
Merci.
Au micro, Armando Nguendi, j'ai bénéficié de l'appui direct de Jean-Fernand Nakouina et de Herman Nambouna à la technique.